Salut les marques et salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici toutes les semaines, on analyse les émissions de la WWE, Monday Night Raw, SmackDown, mais pas que, aussi NXT, les shows de la All Elite Wrestling, ça c'est la baston du mercredi, c'est en ligne, je vous invite à aller l'écouter avec l'amiral et tonton Chris. On a notre analyse également de Double or Nothing, deuxième pay-per-view de la All Elite Wrestling, le deuxième plus gros pay-per-view de la All Elite Wrestling. L'analyse est en ligne également, allez vous jeter dessus. Voilà, vous avez compris, on va parler catch hein, pendant une petite heure, alors un peu moins parce qu'aujourd'hui je suis seul pour analyser SmackDown, le show bleu de la WWE, le show de vendredi 29 mai, si je ne dis pas de bêtises, qui était toujours au Performance Center. Alors, si vous nous écoutez sur YouTube, ce serait très aimable à vous d'appuyer sur la cloche, de vous abonner et puis de mettre un petit like pour améliorer la visibilité, hein, tout simplement, de notre émission. Ce serait fort aimable à vous. Alors, donc comme je l'ai expliqué, cette fois-ci, je suis tout seul. C'est pas l'exercice que je préfère, mais bon, on va s'y atteler. On va pas tarder plus que ça. SmackDown, qu'est-ce qu'il y avait au programme? Théoriquement, on devait avoir la suite du tournoi pour le titre intercontinental, qui opposait notamment dans plusieurs matchs pour les demi-finales, donc Jeff Hardy contre Daniel Bryan et Jay Styles contre Elias. Alors, on se souvient que Jeff Hardy avait défait Sheamus la semaine dernière et Jay Styles Shinsuke Nakamura. Et que Daniel Bryan, lui, il avait vaincu la semaine d'avant Drew Gulak dans le premier round. Elias, lui, avait battu Baron Corbin. Alors, cette ceinture intercontinentale, pourquoi elle est en jeu? Parce que Sami Zayn l'a abandonnée, hein, souvenez-vous. Il ne veut plus venir catcher à cause de la crise du Covid. Donc, on lui a retiré la ceinture. C'est un peu le grand perdant à la WWE de cette période tourmentée, dirons-nous. Ce soir également, A Moment of Bliss est prévu, championne face aux champions. Alexa Bliss et Nikki Cross reçoivent le New Day. Sonia Deville doit affronter Lacey Evans. Elles se sont crêpées le chignon sur Twitter pendant la semaine, donc on a booké un match. Voilà en gros ce qui était prévu. Ce soir, eh bien, tout ne va pas se passer comme prévu, puisque en fait, on démarre le show sur le parking du Performance Center. Une voiture à l'arrêt, dans un poteau plié, un homme à terre qui se tord de douleur. C'est Elias. Il a été visiblement renversé. On est accueilli par notre reporter préféré, René Young. La police est là également. On nous apprend qu'il y a un témoin de la scène. C'est un hit and run, comme on dit aux États-Unis, hein, un accident avec une tentative de fuite. Un homme en noir, hein, t-shirt noir, pantalon noir, est sorti de la voiture. On a un témoin hein, de cette scène. La police est là, elle inspecte la voiture. Jeff Hardy, c'est le nom inscrit sur la carte grise de la voiture. Donc les policiers sont là, ils appellent Jeff Hardy, est-ce qu'il y a un Jeff Hardy dans la salle? Bon, personne ne répond. Évidemment, ça arrive rarement hein, que le chauffard hein, reste à côté de sa voiture et puis répond quand on l'appelle. Quoi, hein. C'est un peu étrange. Il y a une bouteille de whisky hein, sur le tapis passager ou conducteur, on ne sait pas trop. Hein, ça sent l'alcool dans cette voiture. On emmène Elias, hein, évidemment, en brancard. Et là, d'un seul coup, ça s'affole. On a les policiers ainsi que Jamie Noble. Il y a aussi Jason Jordan qui est là. Jason Jordan. Ils retrouvent derrière un camion un peu plus loin Jeff Hardy, évanoui. Il est en pantalon noir, il est en t-shirt noir. Il sent l'alcool. Il n'a pas l'air d'aller bien. Il dit qu'il a mal à la tête. Il a la tête qui tourne, il ne tient pas debout. Il a deux doigts de vomir hein, même. Il n'a vraiment pas l'air bien, il a l'air d'avoir passé une grosse soirée. Et donc la police finit par lui mettre les menottes. sous le regard des caméras. On apprend aussi qu'il y a un autre témoin clé de la scène, c'est le champion de l'univers, notre ami Braun Strowman, qui est outré, choqué. Il nous explique que oui, voilà, moi j'allais au boulot, et puis qu'est-ce que je vois, un accident, c'est dégueulasse, j'espère que la personne sera arrêtée, etc. etc. Bon, il dit qu'il va au boulot, mais on le reverra plus de la soirée, hein, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il venait faire sur place, ce bon vieux Braun Strowman, mais en tout cas, il a tout vu. Et donc ça se termine avec ce Jeff Hardy visiblement alcoolisé qui est emmené par la police. Il voit quand même, hein, pendant qu'on le ramène, il voit Elias à terre, il est là, il demande Elias, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, je ne comprends rien, j'ai mal à la tête, je vais vomir, etc. Voilà ce début de show. Alors c'est assez original, ça a le mérite d'être original. C'est plutôt pas trop mal fait. On se croirait dans un début d'épisode de New York Police Judiciaire, là, ou New York Unité Spéciale. Jeff Hardy qui a arrêté. Bon, c'est pas, tout n'est pas réaliste, tout n'est pas très bon. Ce qui est triste, c'est le traitement de Braun Strowman, qui fait un peu pitié là, avec son rôle de working hero, là, le mec qui vient au boulot et qui témoigne de la scène. Il y a peut-être quelque chose de mieux à faire avec Braun Strowman, hein, mais visiblement, c'était pas l'ordre du jour. Ça entache encore un petit peu l'image du monstre Strowman, hein, qui de toute façon, à l'heure actuelle, n'est pas vraiment traité de la meilleure des manières, même s'il est, ben, il est le champion qui a battu Bill Goldberg. Ça, c'est pas rien. Mais à côté de ça, son personnage a vraiment perdu en mystique, en charisme. Il est assez ridicule, hein, au final. Et puis voilà pour ce qui est de ce début de show. Après la pub, hein, on revient toujours pas dans le ring, hein, toujours pas à l'intérieur du Performance Center. Enfin, on est à l'intérieur, mais on est dans les coulisses. C'est Adam Pearce qui s'adresse à tout le roster de SmackDown. Donc, il nous explique que Elias est blessé. Donc, ce soir, ça va être difficile de faire les demi-finales puisque Jeff Hardy a aussi été arrêté. Donc, pour le tournoi intercontinental, ça va être un petit peu délicat. Sheamus explique qu'il n'est pas surpris, hein, que Jeff Hardy soit arrêté, hein, ça lui arrive toutes les deux semaines. Daniel Bryan lui dit de se calmer, hein, quand même, hein, relax mec. AJ Styles est content de son côté, hein, il dit bah c'est bien, comme ça nous on va aller directement en finale avec Daniel, pas de soucis. Mais Daniel Bryan lui il n'est pas d'accord, il dit non mais moi j'aimerais bien affronter quelqu'un, on est là pour le challenge, c'est quand même un tournoi. Styles se fout ouvertement de sa gueule, hein, il lui dit non mais t'es stupide ou quoi, là on a un droit de passage, bon bah tu fais ce que tu veux mais moi je garde mon bail, hein. Donc là il y a tout le monde qui commence à discuter, hein, parce que tout le roster est là, il y a King Corbin qui dit que lui et Sheamus devraient affronter Daniel Bryan et puis que c'est le gagnant de la triple frite plutôt qui irait affronter AJ Styles la semaine prochaine. Dove Ziggler il est pas content, il dit oh, c'est pas toi Jack Tunney, hein, King Corbin, hein, on connaît Jack Tunney, l'ancien soi-disant enfin la personne qui jouait le directeur de la WWE dans les années 80. Alors c'est le brouhaha. Adam Pearce tape du poing sur la table, il dit bon bah écoutez, si c'est comme ça, ce soir on fait une battle royale et le gagnant il ira affronter Daniel Bryan. Et le gagnant du match contre Daniel Bryan ira affronter AJ Styles dans 2 semaines pour la finale du tournoi intercontinental. Donc en gros, Daniel Bryan, tu vas affronter quelqu'un, bah t'affronteras quelqu'un, vous voulez votre chance, bah vous allez la gagner, et puis AJ Styles, toi t'as rien envie de foutre, bah tu fous rien, hein, rendez-vous dans 2 semaines. Voilà, alors ça parlait beaucoup, mais au moins ça a le mérite de changer un petit peu des openers qui se passent dans le ring. Je préfère à la limite le deuxième segment avec la discussion, même si c'est pas du tout cohérent, hein. Il y a rien qui est cohérent dans cette histoire, hein. On donne le droit de passage à AJ Styles mais pas à Daniel Bryan. On sent qu'ils ont des matchs de prévus sur la carte et puis bah, il va falloir se démerder pour expliquer tout ça. Donc on a ces deux petites histoires qui ont été mises en place. Bon, Jeff Hardy, ça sent quand même le traquenard de Sheamus à l'américaine. Ça sent le traquenard quand même. Bon, c'est marrant parce que ça joue un petit peu sur la vraie vie de Jeff Hardy, hein, ses excès, ses abus, etc. Pour le reste, voilà, ça, c'était un peu long, mais suffisamment bien fait pour que pour que pour une fois on rentre dans le show. De toute façon, on est toujours dans cette période Corona Mania. Cette semaine, on va avoir du public puisqu'ils ont mis toutes les personnes de NXT, hein, du Performance Center un peu autour du ring pour donner un petit peu de l'ambiance. Donc, il y en aura un peu plus que les autres semaines. Mais autant avoir des segments comme ça plutôt que des matchs sans ambiance. C'est toujours mieux. Maintenant, bon, est-ce qu'on est intéressé à l'heure actuelle entre une histoire entre Jeff Hardy et Sheamus? C'est une bonne question parce que Sheamus, on va voir qu'il n'est pas très très en forme quand même, hein. Donc, on enchaîne sur la Battle Royale promis. Donc, il y a du monde. Grand Metalik et Lince Dorado, les Lucha House Party sont de la partie. le roi Corbin, Drew Gulak, qui a été viré puis qui a été réengagé dans la foulée. Ça, c'est marrant quand même. Jey Uso est là, hein, toujours en solitaire parce que son frère est blessé. On a Cesaro qui est là, Shorty G, qu'on a appelé Chad Gable dans le temps, Sheamus donc, Dolph Ziggler, toujours là, tranquille, n'a pas pris de vacances lui. Et Shinsuke Nakamura non plus, pas parti surfer, il est là. Alors tout ce beau monde va se mettre sur la gueule. Donc, ce qu'il faut retirer de ce match, bon, Drew Gulak, les Lucha House Party sont rapidement virés par une association entre Ziggler et Baron Corbin. Dolph Ziggler va essayer de trahir Corbin, bien mal lui en prend, parce qu'il va se faire éliminer par le roi. Shorty G va éliminer Cesaro et Shinsuke Nakamura. Ça, c'est pas banal, ça aura son importance dans la suite du show. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Une fois que tout ce beau monde est éliminé, ben les deux qui restent, il faut savoir que Cesaro va revenir dans le match pour éliminer Shorty G. Hein, les officiels auront le dos tourné parce que Nakamura, après s'être fait éliminer, va vouloir remonter dans le ring. Et là, Cesaro, il revient, il prend Shorty G, il le jette par-dessus la troisième corde. Les officiels comptabilisent Shorty G comme éliminé. Ensuite, donc, il ne restera plus que Sheamus et Jey Uso en finale. Jey Uso qui aura éliminé notamment, je crois, non, Baron Corbin, ouais, avec un super kick. Et donc, il va tenter le super kick aussi sur Sheamus. Ils vont se retrouver tous les deux sur le tablier du ring. Jey Uso va tenter un nouveau super kick qui va être bloqué par Sheamus qui va l'envoyer volamment contre le poteau et enchaîner avec un broke kick. Le Jey Uso va tomber à terre. C'est la victoire de Sheamus qui ira donc affronter Daniel Bryan dans le main event de la soirée pour avancer dans ce tournoi intercontinental. Bon, c'était plutôt une bonne Battle Royale de weekly, sans problème, rien à redire sur ce petit match qui était plutôt, ma foi, sympa, puis qui fait avancer les intrigues pour le reste de l'émission. Donc, ça, c'est plutôt judicieux, c'est plutôt cohérent. On va retourner dans les vestiaires. Sonia Deville, oui, bah, il n'y a pas que des bons trucs hein, non plus. Nous fait une petite promo face caméra en nous disant qu'elle va battre Lacey Evans ce soir. Hein, la semaine dernière, elle avait battu Mandy Rose, tout ça. Et mais il y a Lacey Evans qui apparaît dans le fond et qui vient assommer Sonia Deville. Elle vient la pousser. Donc voilà, on voit qu'il y a de l'animosité entre les deux. Et on aura un match juste après qui est absolument regardable. C'est très très basique, très très amateur. Elles sont pas le niveau hein, les deux. Hein. Je pense qu'on s'en est rendu compte depuis des semaines et des semaines. Donc en plus elles vont jouer un petit peu la psychologie. À un moment donné, Lacey Evans qui va proposer à Sonia Deville de se la jouer façon lutte amateur. Hein, elle va prendre la position de lutte amateur à quatre pattes là et puis Lacey Evans, Sonia Deville va venir derrière pour essayer de la claquer au sol. Enfin bref, ça est bien nul et puis ça se termine par un double décompte à l'extérieur. Donc c'est pas fini en plus de cette rivalité qui, à mon avis, n'intéresse personne. Enfin, si ça vous intéresse, hein, parlez-en dans les commentaires. Je vous invite à vous faire l'avocat de ces deux catcheuses qui étrangement, enfin, ne pourront pas, hein, en tout cas, se plaindre de ne pas avoir eu leur chance à la WWE. Hein. que là, elles ont un bon temps d'antenne. Ensuite, les Forgotten Sons nous font une petite vignette. Donc, on apprend que, effectivement, Jackson Riker, je crois que c'est comme ça, et puis Brandon Cutler, ce sont deux anciens des Marines. Enfin, ça, on pensait, on le savait déjà. Mais Wesley Black nous apprend que lui, il n'est pas un ancien Marines. Donc, ça en fait un mec un peu bizarre. Il traîne avec deux alcooliques. En tout cas, le sang, il sera plus sur leurs mains, il sera sur les nôtres. Allez savoir pourquoi. Voilà, pas très intéressant. On préférait les voir en action, à la limite, les Forgotten Sons. Ça ne fonctionne pas trop en vignette comme ça. Alexa Bliss et Nikki Cross, c'est l'heure du Moment of Bliss avec le New Day. Alors, on s'échange des pancakes. Hein. Nikki Cross, elle a fait des pancakes écossais. Le New Day, ils ont des espèces de céréales qui mélangent avec de l'eau et qui donnent à Alexa Bliss. Alors, c'est évidemment des céréales que Big E sort de son slip. Hein. Donc, elle va pas en manger, hein, Alexa Bliss. Et donc, on rigole bien, mais on est interrompu par Bayley et Sasha Banks qui viennent un peu taunter, hein, comme on dit en anglais, elles viennent un peu déclarer la guerre à Alexa Bliss et Nikki Cross. Donc, le ton monte. Il y a des petites blagues sur Sasha Banks parce que là, dans le ring, tout le monde a des ceintures sauf elle. Et donc, du coup, il y a Bayley qui dit t'arrêtes de te foutre de la gueule de ma copine Sasha, puisque c'est comme ça, on va te montrer comment que ça se passe. Et Sasha, elle va t'affronter ce soir et c'est parti. Alors, Sasha Banks, elle n'est pas trop contente parce qu'elle n'avait pas prévu ça, hein, elle n'était pas en costume de catcheuse. Donc, Bayley lui dit ah, c'est pas grave, j'allais te chercher tes affaires, hein, je sais pas. Et donc, après la pub, on a ce match entre Sasha Banks et Alexa Bliss. Sasha Banks en basket, elle a enlevé ses talons hauts. Et Bayley est au commentaire avec Nikki Cross également. Nikki Cross qui vole la vedette à tout le monde. Hein. Elle fait le show, encore une fois, elle monte sur les tables, elle gueule dans tous les sens. Bayley a beau lui demander de se taire, de se calmer, etc. Ça ne fonctionne pas. On a un match bien sympathique entre Alexa Bliss et Sasha Banks. Sasha Banks qui porte un brassard pour honorer la mémoire de Anna Kimura, la catcheuse japonaise, qui s'est suicidée il y a à peu près 2 semaines. Une histoire bien triste, hein. Anna Kimura, c'était la relève du catch japonais féminin, notamment à la Stardome. Elle avait un bel avenir qui s'offrait à elle. Elle a participé à une émission de télé-réalité pour faire un peu la promotion du catch, hein, auprès du grand public. Malheureusement, il y a eu un retour de bâton des réseaux sociaux, hein, parce que puis tu as une altercation comme on en voit dans ces émissions de télé-réalité. Là, quelqu'un lui avait ruiné son costume qu'elle avait porté au Tokyo Dome, parce qu'apparemment, elle avait fait l'opener du Tokyo Dome, du Wrestle Kingdom cette année, là, avec les. Parce que les filles de la Stardome avaient pu catcher au Tokyo Dome pour faire l'ouverture du Wrestle Kingdom, de la New Japan Pro Wrestling. Donc on lui a ruiné son truc et puis elle s'était énervée, elle avait un petit peu frappé, une petite targette derrière la tête, hein, d'après ce que j'ai compris, un des autres participants, ce qui n'avait pas du tout passé auprès d'un certain public japonais qui est peut-être un peu moins habitué. C'est une choquante d'après ce que j'ai compris, mais bon, après je ne suis pas spécialiste du monde japonais, de la société japonaise, donc je ne sais pas trop, mais en tout cas... ce genre de bêtises, ça se passe aussi en France, donc c'est pas étonnant. Ce qui est plus étonnant, c'est que voilà, psychologiquement, elle s'en est jamais remise. Elle n'a pas supporté le déferlement de saloperies qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, elle a mis fin à ses jours. C'est très triste. Mais voilà, Sasha Banks, c'était une petite pensée pour elle avec ce brassard. C'était plutôt tout à l'honneur de Sasha Banks. C'est une histoire bien triste. Donc, revenons à des choses un peu moins sérieuses. Sasha Banks, évidemment, elle a deux doigts de perdre le match. Bayley intervient, elle fait tomber... Bayley intervient. Nikki Cross va tenter d'empêcher Bayley d'intervenir. Bayley pousse Nikki Cross sur Alexa Bliss qui était montée dans le coin du ring. Alexa Bliss, elle s'écroule par terre. Et Sacha Banks en profiter pour voir un petit roll-up modifié, là, comme ça, et prendre la victoire. C'est donc la victoire des méchantes. Voilà, la championne et sa meilleure amie qui se placent clairement dans la course au titre tag team. Hein. Bon, elles ont rappelé que c'est elles qui ont mis les ceintures tag team sur la carte, etc. Il y a une volonté quand même de récupérer ces titres. Donc j'en profitais un petit peu parce que toutes les semaines, hein, vous entendez Tonton et Raph hein, enterrer Bailey toutes les semaines, gna gna gna, elle n'est pas assez bonne, etc. Fait pitié. Moi je vais prendre un petit peu la défense de Bailey. Moi je trouve que c'est pas si mal ce qu'elle fait. Elle a un règne qui est cohérent, elle a battu à peu près tout le monde. Et si ses matchs sont pas extraordinaires, si les segments sont pas extraordinaires, c'est. Je pense surtout en grande partie parce que les personnes qui sont en face, c'est pas terrible quand même. Hein. Là, on se recoltine encore Nikki Cross et Alexa Bliss. Elle les a déjà affrontées, elle les a déjà battues. Sinon, à part ça, c'est Lacey Evans qu'il faut se coltiner. Tamina, c'est quand même pas facile de sortir des bons trucs de ces filles-là. Elle a eu brièvement, je crois, Ember Moon avant qu'elle se blesse. Sinon, qu'est-ce qui reste dans le roster ? Carmella. À la limite, Naomi, mais Naomi, elle est pas très fiable, elle est bourrée les trois quarts du temps. Puis c'est pas non plus du 4 étoiles, hein, Naomi, même si je l'aime beaucoup. Au final, Bailey, elle a un personnage cohérent qui est irritant, je suis d'accord. Bon, les matchs n'ont pas toujours été top, mais on a une championne qui est dominatrice. Soit par la triche, soit par le catch. Elle a son acolyte qui est là. On sent que ça va de toute façon terminer sur un affrontement entre Banks et Bailey. Hein, ça va se trahir au bout du compte. En plus, là, elle commence à faire de plus en plus de fautes. Bailey, en utilisant un peu Sacha Banks comme une serpillière. Moi, je trouve ça plutôt cohérent. Et je trouve ça largement plus intéressant que ce qu'on peut avoir en bas de carte avec des Lacey Evans, des Sonya Deville, des machins, là. Ça c'est purement regardable. Moi j'aime bien ce personnage qu'elle a construit, la gentille Bailey, même si elle a une coupe de cheveux pourrie et un maquillage complètement atroce et les fringues, on n'en parle même pas. Donc c'était pas honteux ce milieu de show, on va dire. Jamais trop fan des Moments of Bliss, donc plutôt agréablement surpris. On enchaîne avec les répercussions de la Battle Royale, puisque dans les vestiaires, Shorty G s'entretient avec Cesaro et Nakamura, il les engueule, c'est dégueulasse, vous m'avez fait perdre ma chance. Cesaro s'énerve, il dit c'est bon, tu vas te calmer, hein, tu vois pas que tu fais tâche ici, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est ici qu'il y a les big boys qui s'amusent, hein, c'est un truc pour les grandes personnes, hein, la WWE, donc retourne. Hein, je te donne une chance de t'en tirer comme un homme, comme un grand. Tu retournes d'où tu viens et sinon, je te mets la pâtée dans le ring. Là, Shorty G se démonte pas. Il lui met un bon coup de coude dans la gueule. Cesaro s'écroule au sol sous le regard amusé de Shinsuke Nakamura. Et il lui dit, Shorty G, le challenge est relevé. Donc, ils vont se retrouver dans le ring. Ils vont se foutre sur la gueule. C'était plutôt pas mal. Hein. C'est quand même Cesaro contre Chad Gable. Donc ça fonctionne plutôt bien. C'est la victoire de Cesaro, de Shorty G, avec un espèce de roll-up, façon powerbomb roll-up. Là. Hein, Cesaro tente une powerbomb et puis Shorty G s'échappe en roll-up. Et c'est la victoire de Shorty G. Petit push. Pour Shorty G, du temps d'antenne pour Cesaro, Nakamura. C'est toujours délicat, c'est de faire des pushes à l'heure actuelle, vraiment, parce que malheureusement, il n'y a pas de duplique, donc on ne sait pas ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. C'est sympa de revoir un petit peu Chad Gable dans la danse. Après, on a quelque chose d'un peu plus délicat. Ça, j'aurais bien aimé ne pas être seul pour avoir à vous raconter ça. C'est le passage Otis, Mandy Rose, qui sont à la piscine, ils prennent le soleil, en train de manger, hein, évidemment. Et Otis dit, moi je vais aller dans la piscine un petit peu, est-ce que tu veux venir ? Mandy Rose, elle dit, non, je suis fatiguée. Et donc là, elle s'endort et elle rêve de Otis qui est à la piscine. Un peu comme Gailuron qui rêve qu'il est en train de dormir. Voilà. Elle est à la piscine et elle rêve qu'elle est à la piscine avec Otis alors qu'elle est avec Otis. Alors, il y a Otis là, il danse un petit peu, sexy boy, il enlève son t-shirt là. Il commence à se grimper dessus. Et puis, ensuite, elle se réveille parce que Otis, il fait une bombe en fait dans la piscine. Il l'éclabousse. Et puis après, il se grimpe dessus. Et donc, c'est une parodie de la scène du film Fast Times at Richmond High, film culte aux USA, un peu moins connu chez nous. Et puis, on n'en sait pas plus. Et on n'a pas trop compris à quoi ça servait. Voilà, j'aimerais bien ne plus avoir de trucs comme ça à regarder. Ce serait pas mal. On enchaîne avec Kurt Angle, hein, qui a été viré il n'y a pas longtemps par la WWE. Ben, il faisait l'arbitre à NXT cette semaine. Et puis, aujourd'hui, il nous annonce l'arrivée d'un nouveau catcheur à SmackDown. Rien d'autre que Matt Riddle. Et on a un petit package sur Matt Riddle. On voit un petit peu ses combats à NXT, tout ça. Donc, ben, je pense qu'il devrait être là la semaine prochaine. Voilà, Matt Riddle arrive à SmackDown. Si vous ne connaissez pas Matt Riddle, c'est un grand blond avec une tête d'acteur des années 80 hein, qui catche pieds nus et bah, qui a été champion un peu partout hein, dans le circuit indépendant. Pas mal bossé à la Evolve, à la Rev Pro, etc. Un peu partout à travers le monde. C'était un ancien combattant de l'UFC qui avait été un peu mis sur la touche pour des histoires de drogue et son arrivée dans le catch, c'est un peu sa rédemption. Et voilà, et puis il est passé donc à NXT. Bah, vous l'avez même sûrement vu au Survivor Series, hein, maintenant que j'y pense. Voilà, il était champion tag team à NXT il n'y a pas si longtemps avec l'ami Pete Dunne. Voilà, bah, il va arriver à SmackDown. Tout le monde est excité par l'arrivée de Matt Riddle, sauf Sheamus qui vient interrompre Kayla Braxton qui était en train de nous dire justement qu'elle était contente de savoir que Matt Riddle arrivait. Sheamus lui dit ouais c'est bon hein, déjà vous nous avez emmerdé avec Jeff Hardy, maintenant c'est Matt Riddle, parlez plutôt de Sheamus. Ce soir je vais affronter Daniel Bryan, je vais le battre, etc. Là-dessus il y a Daniel Bryan qui débarque, il dit tu vas battre qui toi, Sheamus. Là, vraiment, il lui met un coup de pied. Et il s'en va en riolant. Hein, on se voit dans le ring. Mon bon Sheamus. Là-dessus, on nous apprend que Braun Strowman est en feud avec Miz et Morrison. Et qu'ils s'affronteront. Et ben, à Backlash. Hein, il y aura un match handicap, évidemment. C'est ce qu'on aime voir. Un match handicap. Braun Strowman contre le Miz et Morrison. Package est plutôt bien foutu, donc ça donne envie de regarder, mais je sais pas, en fait ça peut être sympa le match quand même. Mais bon, c'est pas ça qui va mettre Braun Strowman sur la carte, hein, j'ai envie de dire. Et donc on arrive au main event, la demi-finale du championnat intercontinental, donc qui confronte Daniel Bryan à Sheamus. Donc gros match, hein, Sheamus et Daniel Bryan, ils se connaissent quand même plutôt bien depuis le temps. C'est un peu bizarre d'envoyer Bryan encore contre Sheamus, hein, parce que Sheamus, c'est quand même, faut le savoir, un des catcheurs les plus stiff, comme on dit, les plus violents. Hein, il y a le Big Show dans une interview qui se plaint notamment de. Il raconte ses souvenirs de match, je sais pas qui se plaint, mais il explique que voilà, dans un match contre Sheamus, au bout de 5 minutes, il avait mal partout, il disait, mais qu'est-ce qui m'arrive, je me sens pas bien. Et au final, il se rencontrait que c'était Sheamus qui lui rentrait dedans comme un bourrin. On sait que Daniel Bryan il s'est mangé une commotion cérébrale après, je crois même le match de WrestleMania qui avait duré 7 secondes là. Il était juste pris un broke kick. Sheamus, souvenez-vous qu'il pète la dent de Jeff Hardy avec un simple coup de pied dans la gueule. Hein. Voilà. Donc pour moi c'est un peu bizarre de voir quand même Daniel Bryan affronter Sheamus. C'est un peu jouer avec le feu. Mais bon, bah, reste qu'il y a un match qui est bien foutu, hein. Il y a de la combativité des autres côtés, d'un côté comme de l'autre, pardon. Hein, tout le monde déroule un peu son catch. Sheamus, on sent qu'il n'est pas
très très grande forme, mais bon, il a assez de professionnalisme et d'ancienneté pour savoir gérer quand même correctement son match. Mais je pense que ces Bellator sont derrière lui quand même, hein, Sheamus. Alors, on va évidemment envoyer Brian dans les barricades, etc. Sheamus va prendre le micro, il va demander à Michael Cole de lancer des Yes Chant pour encourager Brian, etc. Il va même porter un White Noise, mais c'est pour le compte de deux. Il va tenter le Brock Kick dans la foulée, mais c'est là que Jeff Hardy débarque. Et oui, il est sorti de prison. Il arrive au ring, Sheamus est pas content, il est distrait, il faut pas être distrait face à Daniel Bryan, il se prend un running knee dans la face, 1-2-3, victoire de Daniel Bryan, qui ira affronter donc AJ Styles en 2 semaines, et là-dessus, Jeff Hardy monte dans le ring, il s'attaque à Sheamus, jusqu'à ce que Sheamus soit obligé de battre en retraite, et ça se termine sur ça, sur un Jeff Hardy qui s'est peut-être échappé de prison, peut-être a été libéré. Je crois qu'il y a une annonce officielle comme quoi il a été libéré sous caution, quelque chose comme ça, ou qu'ils ont abandonné les charges de conduite en état d'ivresse. Et donc voilà, Daniel Bryan va affronter AJ Styles et Sheamus est en feud officiellement avec Jeff Hardy, et puis on se doute quand même que c'est Sheamus qui a manipulé, piégé Jeff Hardy. On en saura sûrement plus la semaine prochaine. La semaine prochaine, The Miz et John Morrison auront un warning. Comment on peut dire ça en français? Je ne sais pas, un ultimatum ou voilà, une alerte, on va dire, pour Braun Strowman. Et il y a un championship tag team féminin qui aura lieu entre Alexa Bliss et Nikki Cross. Plutôt Alexa Bliss et Nikki Cross d'un côté contre Bayley et Sasha Banks. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce SmackDown? Pour résumer ce qu'on appelle le mot de la fin, hein, je vais donner une note. Un top, un flop. Ce qui était plutôt top. Qu'est-ce qui était plutôt top? Pas très bien SmackDown, hein, en ce moment, on va pas se mentir. Hein. Là, j'ai regardé, j'ai fait un effort, quoi, si vous voulez. Parce que même le Cesaro Shorty G, c'était quand même mal réalisé. Hein, ils sont un peu à la ramasse au niveau de la réalisation. Donc, il n'y a rien qui est vraiment. On se dit, ça fonctionne. Non, c'est toujours approximatif. Voyons voir. J'ai Tonton Chris qui m'a quand même laissé son avis sur le show. Je crois qu'il a donné son top au main event, qui me paraît logique. Ça, c'est pas con. Le flop, évidemment, Otis et Mandy Rose. Donc ça, on va être d'accord. Et je crois qu'il m'a donné 2,75 pour le show. Moi, je vais mettre un 2. Je vais donner le top quand même à ce segment de début. Alors, pas sur la réalisation, mais sur l'idée de donner un petit peu quelque chose de différent de ce qu'on a déjà vu. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne du feu de Dieu, mais au moins, il faut jouer sur des choses comme ça tant qu'on est dans cette période de Corona Mania, là où on ne peut pas avoir de public, parce que les matchs, quoi qu'il arrive, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on va donner le top au segment de début. On va donner le flop à Otis et Mandy, hein. Il mérite bien. Et moi, je vais donner 2, pas plus. Même pas 2. De toute façon, tous ces shows-là qui ont lieu pendant cette période un peu difficile, je trouve vraiment pas ça très intéressant. C'est pour ça que vous ne m'entendez plus trop dans les reviews. Voilà, là, j'ai fait un bel effort. Je trouve, j'espère que vous êtes satisfait et que vous avez quand même apprécié l'émission. Alors, n'hésitez pas à nous dire, hein, d'ailleurs, dans les commentaires si ces formules qu'on fait en solo, ça vous plaît, parce que on le fait parce qu'on est pris par le temps, hein, quelque part, donc ça, c'est plus simple pour nous de faire comme ça, mais si ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à le mentionner, on s'arrangera autrement, il y a d'autres possibilités qui existent. Voilà, alors, je vous rappelle, pour ce qui est de catch-up, parce que c'est l'heure de l'auto-promo, hein, toujours fastidieux, on est partout, sur toutes les plateformes de podcast qui existent. Et on est aussi sur YouTube. Et bah, si vous êtes sur YouTube, encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. On est sur ça s'appelle Facebook, là, Twitter, les conneries comme ça. Et vous pouvez nous rejoindre sur Discord, hein, y a tout dans la description. En dessous, hein, n'hésitez pas à venir sur Discord, hein, on discute catch, on raconte des conneries, on s'insulte, on s'engueule, il y a des gens qui s'en vont, des gens qui viennent. C'est vivant, hein, c'est toujours sympa. Puis vous pouvez, si vous êtes un autre producteur de contenu, hein, sur YouTube ou autre, vous pouvez venir faire votre pub aussi chez nous, hein, on n'est pas comme ça. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour, j'espère que tout ça a été satisfaisant pour vous. J'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine ou à bientôt. Des bisous, ciao ciao.